Je rappelle à nos auditeurs que je reçois Rémi Babiot et son piano. Je n'ai pas le piano dans le studio, mais c'est tout comme. Dans votre enfance, Rémi Babiot, vous êtes tombé amoureux du piano, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. C'était l'instrument, c'était sa beauté, c'était sa sonorité, c'était la musique qui en sortait. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Moi, j'étais pas pianiste quand j'ai commencé à bricoler des pianos, je dirais. J'étais pas pianiste, mais j'ai vu des gens confier leurs instruments qui ne marchaient plus ou qui ne donnaient pas un bon son, confier leur instrument à mon parrain, donc qui était réparateur, et voilà, ramener ce piano en bon état de marche, parce qu'on s'attache énormément aux instruments, on a beaucoup de mal souvent à se séparer d'un instrument de famille ou un instrument sur lequel on a beaucoup travaillé, qui nous a fait suer ou qui a provoqué beaucoup de bonheur. Donc voilà, redonner vie à un instrument qu'on trouvait fatigué ou mauvais, devenu mauvais, c'est vraiment ce qui a motivé mon envie de faire ce métier.
Et enfant déjà, vous étiez attiré également par d'autres musiques que le piano, par la musique en général ?
Je crois que j'écoutais pas beaucoup de musique à l'époque. C'est vraiment j'ai d'abord été axé sur le côté technique. Et c'est vraiment que dans l'évolution de mon métier où j'ai commencé à fournir les instruments pour les concerts, où là j'ai pris conscience de la beauté des interprétations, notamment puisque on peut entendre voilà le même morceau interprété de plusieurs manières, et ça peut devenir magique sur une interprétation. Et c'est au cours de ma carrière que je me suis vraiment intéressé plus à la musique. Au départ, peut-être pas trop sur le côté mécanique, comment ça marche, comment faire pour que ça marche bien et que le son soit beau, mais pas trop sur la musique. C'est vraiment venu petit à petit.
Et en parallèle avec cet apprentissage donc du métier, vous avez fait des études musicales, vous avez appris à jouer du piano.
Pas
comment
du tout.
Ça s'est passé?
Non, je ne joue pas de piano. Alors, bon, les gens qui m'entendent disent, bah, si, ils jouent du piano, mais je joue suffisamment pour être capable de gérer le son d'un piano pour un concert, parce que quand on met un grand queue de concert pour un récital, le pianiste peut avoir des exigences sonores, donc il faut modifier le son du piano à sa convenance, à son répertoire, à son jeu, au lieu dans lequel on met le piano. Donc il faut être capable de jouer le piano pour traduire ce que le pianiste demande. Mais j'ai pas fait d'études musicales, j'ai pas pris de cours de piano, c'est vraiment à l'instinct, en autodidacte, voilà, pas de formation musicale.
Et alors dans votre métier, l'oreille, évidemment, a une importance capitale.
Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez l'oreille absolue ?
Non, ah non, mais je crois que j'en voudrais pas. Parce que
c'est
vraiment.
Oui.
Non, les gens qui ont l'oreille absolue, c'est un don. Moi, j'ai une oreille relative qui a été éduquée par cette école au Mans. En fait, on est tous. On fait cette école sans savoir si on a la faculté de se développer une bonne oreille. Donc on va à l'école et puis ben, on teste. Et puis on sort de l'école avec un diplôme, mais on ne sait pas encore si on va devenir un bon ou un accordeur correct ou un très bon accordeur, parce qu'on est tous différents devant cette faculté à se développer l'oreille.
Et donc, parmi les autres instruments, qu'est-ce que, maintenant que vous écoutez de la musique assez régulièrement, semble-t-il?
Oui, j'ai tendance à être un peu dur avec les autres instruments. S'il n'y a pas du piano, j'ai du mal à écouter. Alors, musique de chambre, ça va. Mais si, c'est vrai que, bon, j'aime beaucoup le violoncelle quand même, mais c'est vrai que si c'est pas lié au piano, c'est pas bien, hein, parce que je devrais m'ouvrir aux autres instruments, mais il y a tellement à apprendre et écouter avec le piano que et puis j'en découvre encore tous les jours, hein, autour du piano, donc vraiment je me concentre là-dessus parce que c'est ce que j'aime.
L'opéra, la voix, les chœurs, c'est pas votre truc?
Ben
moins,
voilà, moins. J'en
D'accord.
écoute, hein, mais,
oui.
Mais je reviens vite au piano.
Le jazz?
Un petit peu de jazz, oui. Alors, je suis assez classique dans le jazz. Voilà.
Plutôt New Orleans?
Voilà,
plutôt...
c'est ça, ça j'aime beaucoup. Fats Waller, des choses comme ça.
Les variétés, le rock, vous en écoutez aussi?
Alors j'écoute, j'ai des enfants qui m'ouvrent un petit peu à tout ce qui se fait aujourd'hui, donc je suis pas j'écoute volontiers tout ce qui se fait, parce que je trouve qu'il y a des bonnes choses quand même dans la variété. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup la variété française, les Michel Berger, Véronique Sanson et tous ces artistes là. Après bon, je vous dis, mes enfants me font découvrir un petit peu tout, mais je suis pas sectaire.
Et donc, la musique fait partie de votre quotidien, j'imagine. Vous en écoutez beaucoup?
Ah oui, tout le temps. Tout le silence me fait peur. Faut qu'il y ait toujours de la musique en fond ou quelque chose.
Principalement ouais. De la musique de chambre, disiez-vous.
Voilà, piano seul ou musique de chambre.
Alors, les pianistes, parlons des pianistes, quels sont vos interprètes préférés?
Oh, je les aime tous, là. Après, j'ai eu la chance de travailler pour des artistes connus, Vanessa Wagner, Bertrand Chamaillou, j'ai eu Claude Bolling en jazz, j'ai côtoyé des artistes vraiment très connus, et puis avec qui c'est... Voilà, donc, bah, je les aime tous, ils ont tous leur interprétation, mais j'ai pas de... Faudrait que je vous dise ceux que j'aime pas, mais j'en ai pas non plus. Donc c'est vraiment... Non, je crois que j'aime tous les pianistes.
Qu'est-ce que vous recherchez quand vous écoutez un concert ou un CD ?
D'être ému. Et je dirais que ça peut arriver au détour d'une petite salle et d'un artiste aussi pas très connu, où parfois bah, on met un piano et... Alors je dis ça plus par rapport au concert que par rapport au CD, mais voilà, comme je fais beaucoup de concerts, c'est vrai que parfois ben, on connaît pas l'artiste, on installe un piano et puis ben, il se passe une magie où la salle est très réceptive, l'acoustique est parfaite, le pianiste joue merveilleusement bien et du coup on a passé une soirée émue, très touchée par le concert, et ça s'explique pas, donc c'est ça que je cherche, être touché par la magie du concert.
Quels sont les qualités, les caractéristiques d'un piano, du piano idéal en quelque sorte, le son.
Je ne crois pas qu'il y ait de piano idéal. Moi, je suis partisan du.
Parce qu'ils ont leur personnalité, chacun.
Voilà, et puis il existe des dizaines de marques de piano qu'on peut écouter toutes. Qui peuvent être toutes très bonnes. Je suis pas trop d'accord sur le fait de vouloir toujours le même son de piano sur les concerts, sur les CD. On a tendance à entendre toujours un petit peu le même son de piano. Moi, je trouve qu'on peut varier un petit peu ça, essayer d'autres sons, d'autres marques, d'autres ne pas toujours être toutes. Il y a des marques vraiment excellentes dans les pianos. Pour les citer, il y a Bösendorfer, il y a Yamaha, il y a Steinway, il y a Bechstein. Enfin, il y a vraiment des très très bonnes marques. Mais on peut varier un peu les plaisirs avec les sonorités. La sonorité idéale, je n'en ai pas.
Vous aimez les vieux enregistrements?
J'aime bien, oui. Enfin, j'aime bien les vieux pianos.
Ou les vieux pianistes aussi. Voilà, je sais pas, vous écoutez Clara Askill, Yves Nat, Claudio Arao, gens comme ça. Ou bien vous êtes plutôt Bertrand Chamaillou, Alexandre Tarot.
Du fait de mon travail, je suis plutôt orienté par des interprètes récents. En effet, je manquerai un petit peu de culture musicale
sur les anciens.
Des anciens, ouais.
Et vous avez parlé de la restauration des pianos anciens, des instruments anciens, y compris des pianos fortés, voire des clavecins.
Oui.
Vous vous orientez vers ça ou vous en avez déjà fait beaucoup ?
J'en ai déjà fait pas mal, oui. Et puis c'est une branche de mon activité, on va dire, assez importante. Moi, j'ai moi-même une copie de Walter, un piano forté qui est à moi, donc que je loue pour les concerts. Et puis je suis le technicien du Festival de Saintes pour le festival pour les accords de clavecin, orgue, pianoforte. Donc c'est une branche importante de mon activité, mais qui est quand même essentiellement axée sur le piano.
Vous aimez le son du pianoforte par rapport au piano
Pas par rapport, mais c'est vrai que de temps en temps, entendre du Mozart sur pianoforte, ça rend humble, parce que c'est vraiment les instruments sur lesquels il composait, alors qu'aujourd'hui, on joue ça sur des pianos modernes, on peut en acoustique avoir 3000 personnes quand on a un piano. À l'époque de Mozart, s'il y avait 3000 personnes, déjà le 20e, 10e rang, on n'entendait plus le piano, donc ça rend vraiment humble sur les instruments sur lesquels il travaillait et composait.
Ça pose un problème d'ailleurs d'écoute, parce que c'est vrai qu'actuellement on est plutôt à augmenter les jauges des salles de concert, et alors qu'on est souvent très très déçu si on veut écouter un concerto pour piano et orchestre de Mozart et qu'on est au fond de l'abbatiale, on se dit mais c'est bizarre parce que piano forte on l'entend pas, quoi.
C'est ça. Mais moi je suis partisan des concerts un peu plus intimes, 100 personnes, c'est alors évidemment au niveau rentabilité est-ce que ça pose le problème au niveau des concerts, mais quand on peut avoir des concerts assez intime, je trouve que ça beaucoup plus accessible au niveau de l'émotion dont je parlais tout à l'heure.
Ça convient mieux à la musique, ça, oui, c'est sûr. Probablement. Alors, si vous voulez bien, nous allons écouter un nouvel extrait, à nouveau de la musique de chambre, bien entendu avec piano. Il s'agira du troisième mouvement, le scherzo, du quintette avec piano en la majeure, opus 81, d'Anton Dvorak, avec comme interprète Sviatoslav Richter au piano et le Borodin Quartet. C'était donc Sviatoslav Richter et le Borodin Quartet dans l'interprétation du Scherzo du quintet avec piano opus 81 de Dvorak. Rémi Babio, nous arrivons au terme de notre entretien. Pensez-vous qu'il y a des progrès technologiques possibles pour le piano?
Oui, il faut travailler avec les pianistes parce que c'est eux qui peuvent nous aider dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur les instruments pour évoluer un petit peu. Après, c'est difficile de faire bouger les choses parce que le piano n'a pas évolué depuis quand même assez longtemps ou très peu. Donc on est dans un format qui est un peu rigide où il y a eu certaines innovations mais qui n'ont pas été appliquées parce que parce que voilà, ça changeait trop. Oui, je pense qu'il y a moyen d'évoluer, mais vraiment, il faut faire corps avec les musiciens qui sont eux les mieux placés pour nous aider à les aider en fait.
Et eux, ils ont de l'imagination, des exigences particulières pour...
Oui, il y a des choses, et puis moi, il y a aussi la musique contemporaine qui demande des choses nouvelles. Donc là, peut-être qu'il y a une piste aussi à creuser pour donner de nouvelles possibilités au piano.
Alors, nous en avons parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a un facteur en Bourgogne,
Voilà.
Stéphane Polello,
Oui.
qui vient de construire, enfin qui vient de présenter le piano Opus 102, son piano Opus 102, c'est-à-dire qu'il y a ajouté des touches,
Voilà.
14 touches supplémentaires, 9 dans le grave et 5 dans l'aigu, une sixte dans le grave, une quarte dans l'aigu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, je l'ai essayé. Donc c'est un très très bel instrument, hein. C'est un instrument, il fait 3 mètres de long, 102 notes, c'est vraiment un instrument très puissant. C'est
Oui, c'est ça, il s'appelle Opus
Opus
102
102, parce
parce
qu'il a
qu'il a
102 notes.
102 touches,
Voilà.
c'est-à-dire 14 de
Au
plus
lieu des
que...
88
Voilà,
d'usage sur les
voilà.
pianos. C'est une merveille de technologie aussi, parce que il a un cadre en fonte qu'on appelle barless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barre de renfort qui supporte lui. Il a 25 tonnes de tension dans son piano. Donc c'est vraiment une prouesse technique. Et puis, c'est un technicien hors pair, Stéphane Polello. C'est un ingénieur. Il est pianiste, lui, pour le coup. Et en plus, ce que j'ai déjà préparé des pianos pour lui pour des concerts dans le début de mon activité. Et maintenant, voilà, c'est une référence en termes de facture instrumentale.
Alors il dit que le fait d'avoir ajouté ces 14 touches, bien sûr on peut se servir de ces touches, ça augmente bien entendu l'étendue du piano, mais surtout ça augmente la résonance globale
C'est ça.
de son instrument, c'est ce qu'il
C'est-à-dire que
met
sur
en avant.
les 88 notes, la dernière, elle est un petit peu verrouillée par le bout de l'instrument. La table d'harmonie n'a pas beaucoup de souplesse. Alors que si on rajoute des notes, les notes qui sont les dernières sur un clavier normal se trouvent plus au milieu. Et du coup, voilà, il y a beaucoup plus de possibilités musicales et de liberté à la corde et à la table d'harmonie.
Alors parlons de l'avenir proche de votre numéro zéro. Il a des prévisions, j'imagine. Je crois que vous allez à Niort, vous l'emmenez à Niort
Oui, le 20
le 20
janvier,
janvier.
exactement, pour la nuit de la lecture. C'est Véronique Soustre qui sera sous les doigts de Véronique Soustre, une très bonne pianiste aussi de Niort.
Et puis alors, le 25 avril prochain, ici à La Rochelle, à l'Oratoire,
Exactement.
Votre piano sera sous les doigts d'Éric Blanchard, que nous avons eu le plaisir d'interroger ici, et qui, au profit de l'UNICEF, donnera un concert donc avec votre piano.
Exactement. On va faire un peu le même schéma que ce qu'on fait avec Carole. C'est-à-dire qu'il y aura la projection de la construction en images que je vais animer. Et le père Éric Blanchard va jouer. Notamment, je crois qu'il est prévu qu'il ait
Il fasse une
une
création
création pour l'UNICEF pour cette
de sa
soirée. Voilà.
composition.
Voilà. Et je pense que ça va être une très belle soirée.
Quels sont vos projets en 2018 et au-delà, en dehors de...
Mais là, je suis récemment à mon compte, donc j'étais salarié encore l'année dernière. Maintenant, donc je voudrais que ça fonctionne, développer, mais de
Développer
manière à rester,
l'entreprise.
voilà, de manière tout à fait humaine. Et puis voilà, lancer la construction du deuxième cette année, ça me ferait plaisir.
Alors, on vous souhaite toutes les bonnes choses que vous envisagez.
Merci.
On espère que ce piano va continuer à avoir une belle carrière et qu'il aura aussi des petits frères qui grandiront, beaucoup de petits frères.
C'est gentil, merci.
Vous nous dites un petit mot, si vous voulez bien, du dernier compositeur qu'on va écouter. Il s'agit de Louis Moreau Gottschalk, qui est un compositeur
Un
américain du
sud-américain,
19e siècle.
oui.
Pas très connu, et
Mais non.
vous avez voulu absolument que une œuvre de ce compositeur soit sur le CD enregistré par Carole Carniel.
Exactement. C'est là aussi, au hasard d'un concert, entendu ce souvenir d'Andalousie qui m'a touché au plus haut point. Et connaissant le jeu de Carole, je savais qu'elle allait le jouer merveilleusement bien. Et voilà, donc j'aime profondément ce morceau. C'est qui passe par toutes les émotions, justement, très calme, très puissant, très. Voilà.
Donc vous nous emmenez en Andalousie
Exactement.
avec Louis Moreau Gottschalk sous les doigts de Carole Carniel. Bien entendu, on entend votre piano, Rémi Babiot. Je vous remercie.
C'est moi, merci, au revoir.